La souffrance de ne pas se sentir autorisé à souffrir. Voici où je veux en venir. La plupart des jobs à la con, par leur insignifiance même, exacerbent la dynamique sadomaso que porte déjà en germe toute relation hiérarchique verticale. Ce n'est pas systématique. Il existe des superviseurs généreux et bienveillants. Mais l'absence de tout but commun et l'idée que les actions collectives menées ne font strictement rien pour rendre la vie des gens meilleure, qu'elles n'ont même aucun effet notable sur quiconque, ont toutes les chances d'amplifier les humeurs, bassesses, aigreurs et cruautés dans un environnement de travail où, sans cela, elles seraient restées mineures. Après tout, ce sont de petites histoires de bureaux classiques. Beaucoup de personnes m'ont écrit qu'elles étaient terrifiées pour leur santé, à l'image d'Annie. De même qu'un prisonnier à l'isolement finit immanquablement par développer des troubles mentaux, le travailleur privé de toute raison d'être expérimente souvent une dégradation mentale et physique. Nourri, que nous avons rencontré au chapitre 2, rafistolant le code informatique d'un psychologue viennois fumeux, a tenu une sorte de journal de ses jobs à la con successifs et de leurs effets. Nourri. Job numéro 1. Programmeur pour une start-up. Oiseuse. Effet. Découverte de la haine de soi, un rhume par mois. Système immunitaire ruiné par le syndrome de l'imposteur. Job numéro 2. Programmeur pour une start-up. Créé par pure vanité. Effet. Je me suis tellement donné que ça m'a abîmé un œil, d'où repos forcé. Job numéro 3, développeur de logiciels pour une petite entreprise. Arnaque. Effet, dépression permanente, aucune énergie. Job numéro 4, développeur de logiciels pour une ex-start-up. Mal organisé, voué à l'échec. Effet, paralysie mentale due à la médiocrité ambiante. Effroi en constatant mon incapacité à me concentrer. Un rhume par mois. Système immunitaire ruiné par mes tentatives pour me motiver en me torturant la conscience. Trouble de stress post-traumatique. Idée intégralement nulle. Nourri a eu la malchance d'emprunter un chemin jalonné d'environnement de travail d'une implacable absurdité, voire violent. Il a réussi à rester sain d'esprit. En tout cas, à éviter l'effondrement complet sur le plan mental et physique en se trouvant un autre but, se livrer à une analyse poussée des dynamiques sociales et institutionnelles qui peuvent expliquer l'échec d'un projet d'entreprise. En un sens, il est devenu anthropologue. Et cela m'a été très utile. Merci, Nourri. Par la suite, il a découvert la politique et s'est mis à réfléchir au moyen de détruire le système qui crée des jobs aussi ridicules. Il y a consacré tout son temps et toutes ses ressources. À partir de là, témoigne-t-il, sa santé a commencé à nettement s'améliorer. L'absence de but dévore les êtres indistinctement, même ceux qui évoluent dans des ambiances de bureau relativement clémentes. Sans entraîner toujours une détérioration physique et mentale, à proprement parler, elle génère un sentiment de vacuité ou de dévalorisation, qui est en général accentué par le prestige, le respect et les rémunérations généreuses si souvent attachées à ces postes. Ceux qui les occupent, à l'instar de Liliane, peuvent parfois se rendre malades à l'idée qu'ils sont probablement payés davantage que leurs subalternes réellement productifs. Est-ce que ça ne serait pas du vrai foutage de gueule ? Ou que les autres ont des raisons légitimes de les détester. Beaucoup se disent totalement perdus et ne savent pas ce qu'ils devraient éprouver. Privés de toute boussole morale, ils sont condamnés à jouer leur rôle sans texte. Intéressons-nous à un cas relativement bénin. Finn travaille dans une entreprise qui propose des logiciels sur abonnement. Finn. Votre article sur les jobs à la con n'a cessé de faire écho en moi depuis que je l'ai lu il y a un an ou deux. Je le relis de temps en temps et je le recommande à des amis. Mon job, c'est chef du support technique dans une société de software as a service, logiciel en tant que service. Cela consiste essentiellement à participer à des réunions, envoyer des mails, informer mon équipe des changements à venir, faire remonter les problèmes rencontrés par les clients et rédiger les évaluations de performance. Comme tout le monde connaît déjà les tirs au flanc, ces dernières ne sont que du pipeau, précise-t-il. Et il admet volontiers que c'est le cas de la plupart de ses attributions, hormis son rôle de rafistoleur, dans lequel il résout les problèmes créés par des processus bureaucratiques internes passablement alambiqués. En fait, la boîte en elle-même ne rime pas à grand-chose. Fine. Il n'empêche que, tout en vous écrivant cela, il y a une part de moi qui cherche à défendre mon job à la con. Pourquoi ? Essentiellement, parce qu'il me fait vivre, moi et ma famille. Je crois que c'est là que surgit la dissonance cognitive. Je n'ai pourtant aucun investissement émotionnel dans mon travail ni dans mon entreprise. Si en me pointant lundi, je découvrais que l'immeuble avait disparu, non seulement le monde entier s'en ficherait éperdument, mais moi aussi. La seule satisfaction que je tire de mon boulot, c'est peut-être d'avoir développé une expertise pour naviguer au sein de notre organisation dysfonctionnelle et d'être dur à la tâche. Mais devenir expert de quelque chose d'inutile, ce n'est pas très gratifiant, vous me l'accorderez. Moi, je préférerais écrire des romans et des articles engagés. Et c'est ce que je fais pendant mon temps libre. Mais malheureusement, si je plaquais mon job à la con, j'aurais du mal à joindre les deux bouts. Bien sûr, c'est un dilemme extrêmement classique. Même si votre job est profondément inutile en soi, comment le dénigrer si c'est grâce à lui que vous subvenez aux besoins de votre famille? On pourrait se demander quel est ce système économique qui crée un monde où le seul moyen de nourrir ses enfants est de passer la majeure partie de son temps éveillé à gratter du papier ou à régler des problèmes qui ne devraient pas exister. Mais on pourrait tout autant inverser la perspective et se dire « Tout cela est-il vraiment aussi vain qu'il y paraît, puisque c'est ce même système économique qui me permet de faire vivre les miens ? Voulons-nous réellement remettre en cause le capitalisme ? Et si ce qu'il produit d'absurde était simplement dans l'ordre des choses ?» En même temps, on ne peut faire abstraction de toutes ces expériences humaines qui nous montrent à quel point le monde marche sur la tête. Il y a une autre torture évoquée par beaucoup, dont Liliane, celle d'être tellement respecté socialement, alors qu'on est conscient de l'ineptie de ses activités. Dan était employé administratif contractuel pour une compagnie britannique dans sa succursale de Toronto. Selon lui, son temps de vrai travail ne dépassait pas une heure ou deux par semaine, et il aurait facilement pu le faire de chez lui. Le reste n'avait aucune espèce d'utilité. À ses yeux, endosser son costume et se rendre au bureau n'était qu'une forme élaborée de rituel sacrificiel, une succession de gestes dénués de sens qu'il devait accomplir pour se convaincre qu'il était digne du respect qu'on lui témoignait et qu'il ne méritait pas. Il se demandait tout le temps si ses collègues ressentaient la même chose. Dan. Comme dans un cauchemar kafkaïen, je m'imaginais être le seul malheureux à réaliser l'insondable stupidité de tout le truc. Mais au fond de moi, je me disais que cette expérience devait être secrètement partagée. Les autres le savaient aussi, forcément. On était 6 au total, tous managers. Je pense que dans l'immeuble, il y avait plus de managers que de vrais employés. Cela n'avait aucun sens. Autour de Dan, tout le monde jouait le jeu. C'était le contraire d'un environnement violent. Les 6 managers et leurs supérieurs, managers de managers, étaient polis, aimables, solidaires entre eux. Le discours convenu, c'était de se répéter les uns aux autres qu'on faisait un super boulot et que, sans la contribution individuelle de chaque membre de l'équipe, ce serait le désastre garanti. Mais Dan n'était pas dupe. Ce n'était qu'une façon de se réconforter mutuellement. Au fond, chacun était parfaitement conscient qu'il ne produisait rien qui ait une quelconque valeur sociale et que s'il venait à disparaître, cela ne ferait aucune espèce de différence. C'était encore pire en dehors du boulot. En effet, dans sa famille, Dan était considéré comme le seul à avoir vraiment fait quelque chose de sa vie. Franchement, il m'est difficile de décrire à quel point je me sentais en colère et inutile. On me prenait au sérieux sous prétexte que j'étais un jeune homme actif. Mais qui avait la moindre idée de ce que je faisais réellement ? Dan a fini par démissionner pour aller enseigner les sciences dans une communauté d'Indiens Cris du nord du Québec. Pour ajouter à la confusion, les supérieurs hiérarchiques à qui l'on s'ouvre de ce que l'on ressent vont avoir tendance à dédramatiser. « Vous avez l'impression de ne servir à rien ? Allons, cela n'a pas de sens. » D'accord, ce n'est pas toujours le cas. On a vu que certains réagissent par un clin d'œil malicieux et que quelques rares valeureux acceptent de regarder le problème en face. Mais la plupart des managers intermédiaires se sentent tenus de justifier les choses telles qu'elles sont, puisqu'ils estiment être là pour entretenir le moral des troupes et la discipline de travail. Finalement, c'est la seule facette de leur job qui ne soit pas du vent. Et plus on regarde haut dans la hiérarchie, plus on risque de tomber sur des chefs qui, pour détenir une plus grande autorité formelle, n'en sont pas moins totalement aveugles à la situation. Vassili est chargé de recherche au sein d'un ministère des Affaires étrangères européen. Dans son service, explique-t-il, on compte autant de superviseurs que de chercheurs. Tout document produit par l'un de ces derniers passe systématiquement à la moulinette de deux niveaux hiérarchiques supérieurs, chaque phrase étant reprise, corrigée et retournée à l'envoyeur ad nauseam jusqu'à ce que l'ensemble ne veuille plus rien dire. Certes, cela ne devrait guère être considéré comme un problème quand on sait que ces lignes n'ont aucune chance d'être lues au-delà des murs du bureau et même que personne n'aura jamais vent de l'existence de ces rapports. C'est ce que Vassili fait parfois remarquer à ses supérieurs. Vassili. Si j'ai le malheur de mettre en doute l'utilité ou le sens de ce qu'on fait, mes chefs me regardent comme si je venais d'une autre planète. Pas étonnant, eux-mêmes consacrent tous leurs efforts à essayer de faire oublier que notre travail ne rime à rien. Si l'on découvrait le poteau rose, des postes seraient supprimés et, pour le coup, il n'y aurait plus de boulot du tout. Dans ce cas précis, c'est moins l'économie capitaliste qui est en cause que le système étatique international. C'est lui qui, entre les divers services consulaires, les Nations Unies et les institutions de Bretton Woods, crée sur toute la planète ces myriades de postes. On en ignore le nombre exact, en général fort respectables, confortables et grassement payés. Lesquels sont vraiment utiles et à quoi ? Comme pour tout, on peut en débattre. Nul doute que certains de ces professionnels font des choses importantes, par exemple, essayer de prévenir les guerres. Mais d'autres passent leur temps à réagencer les meubles dans leur bureau. De plus, le dispositif comporte quelques poches totalement superflues, ou en tout cas jugées telles par ceux qui évoluent aux échelons inférieurs. Et cette perception engendre honte et culpabilité. Vassili. Quand on m'interroge sur mon boulot, je n'ai pas envie d'en parler. Je n'ai rien à en dire, rien qui me rende fier. Les gens trouvent ça prestigieux d'avoir un job au ministère des Affaires étrangères, donc leur réaction est généralement faite d'un mélange de respect et de confusion, parce qu'ils ne comprennent pas bien en quoi ça consiste. Pour moi, le pire à supporter, c'est le respect. Il y a des milliers de façons de rabaisser un être humain. Les États-Unis, souvent précurseurs en la matière, ont notamment perfectionné un mode de discours politique moralisateur typiquement américain. Il consiste à dénigrer quiconque pense avoir droit à quelque chose. Appelons ça le discours « estime-toi heureux ». Ses formes et manifestations sont variées. La version de droite fustige tous ceux qui estiment que la société leur doit des moyens de subsistance, l'accès à un traitement médical en cas de maladie grave, des congés maternité, la sécurité au travail ou encore l'égalité devant la loi. Mais il existe aussi une version de gauche. Elle proclame que, Quand on affirme pouvoir prétendre à quelque chose que de plus pauvres ou de plus opprimés que soient n'ont pas, il faut avoir conscience de ses privilèges. Par exemple, si vous vous faites tabasser à coups de matraque et jeter en prison sans raison, vous ne pourrez légitimement dénoncer cette injustice que si vous énumérez d'abord toutes les catégories de personnes qui ont plus de chances que vous de se retrouver dans une telle situation. C'est sans doute en Amérique du Nord que le syndrome « estime-toi heureux » a connu ses développements les plus fantaisistes, mais il s'est répandu dans le monde entier en même temps que l'idéologie de marché néolibéral. Aussi, tenter aujourd'hui de faire reconnaître un droit inédit, jamais revendiqué, tel le droit à un emploi qui ait du sens, ressemble fort à un combat perdu d'avance, puisqu'on est à peine pris au sérieux quand on réclame l'application de droits déjà acquis. L'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations Unies stipule « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage. » Il garantit également un salaire égal pour un travail égal, une rémunération équitable et suffisante pour vivre et faire vivre sa famille, ainsi que le droit de fonder des syndicats. En revanche, il ne dit rien de la raison d'être du travail lui-même. Ce discours a des conséquences particulièrement lourdes pour les jeunes. Dans beaucoup de pays riches, la génération des 20-30 ans est la première en plus d'un siècle à devoir s'attendre à des débouchés et des conditions de vie globalement bien plus médiocres que ceux dont ont bénéficié leurs parents. Cependant, elle est aussi sermonnée en permanence, par la gauche comme par la droite, pour se croire autorisée à mériter autre chose. Voilà pourquoi les jeunes gens ont tant de réticence à se plaindre de l'inanité de leur travail. Refermons cette section avec Rachel, qui exprime toute l'horreur de sa génération. Rachel est un génie des maths. Après avoir obtenu une licence en physique, elle voulait continuer pour décrocher un master. Mais elle venait d'une famille pauvre. Avec le triplement du montant des frais d'inscription dans les universités britanniques et une aide financière réduite à peau de chagrin, elle s'est vue obligée, pour réunir les fonds nécessaires, de prendre un job d'analyste de risques naturels dans une grosse société d'assurance. Elle s'est raisonnée. Après tout, ce n'était qu'une année de sa vie, pas la fin du monde.